question qui est posée, est-ce que tout jugement est un acte volontaire? Le jugement est un acte de l'intelligence. Alors, comme tout acte humain, il faut s'impliquer pour juger. Il faut s'éveiller. Quand vous dormez, vous ne jugez pas. Ça ne pénètre pas. Vous êtes éveillé pour juger. Pour être éveillé, il faut quelquefois faire un acte de volonté. Vous en faites au moins un par jour pour vous réveiller. Et la volonté est là qui soutient notre attention. Pour écouter un cours, il faut un acte volontaire. Être attentif. Pas se laisser prendre à l'imaginaire, au vol des rapaces, au vol de l'aigle. Il faut être attentif. Bon. Être attentif, c'est la volonté qui applique notre intelligence pour qu'on écoute, pour qu'on entende, pour qu'on comprenne. Donc, à ce point de vue-là, tout acte de jugement présuppose, je dirais, présuppose un acte volontaire. Et certains actes de jugement vont pas demander un acte volontaire. Quand cet acte de jugement et d'ordre pratique. Je décide de venir au cours. En sortant de la chapelle, vous avez dit ça. Et vous avez pris la route. Oui, vous l'avez fait peut-être machinalement. C'était prévu. Mais quand même, si entre deux, il y avait quelqu'un qui avait fait un petit signe. Elle vient un petit peu par ici. Elle dit non, je dois aller au cours. Vous avez dit un acte volontaire. Un acte de volonté pour vous impliquer à venir au cours. L'impérium est un jugement. Un jugement pratique qui commande un acte volontaire. Il y a des jugements. Tout jugement, acte d'intelligence, présuppose un acte volontaire. Et tous les jugements pratiques, normalement, commandent un acte volontaire. Donc ça présuppose et ça commande. C'est enveloppé. Parce que la volonté enveloppe toute ma vie spirituelle. Alors, on m'a demandé ensuite de revenir sur le point de vue de l'activité rationnelle des raisonnements. Et je vous avais dit, il faut bien comprendre les divers raisonnements. Le raisonnement inductif, la grande montée, où il s'agit de passer de l'expérience à la découverte des principes propres. Le raisonnement inductif, c'est l'intelligence qui s'éveille à la recherche des principes propres. Et ça monte verticalement. Passage de l'expérience à la découverte, au dévoilement des principes propres. Et ça se fait grâce à l'interrogation. L'interrogation est un jugement quand j'interroge. Un jugement hypothétique. Est-ce que? Quelle est la cause? Oui, je cherche. Ça m'éveille. Platon dira que l'interrogation met mon intelligence en état d'attente, comme un chien de chasse. Je veux avoir mon gibier. Et je secoue. C'est vrai que quand vous êtes à moitié endormi, vous n'interrogez pas beaucoup. Parce que vous êtes proche de l'idéaliste. Alors, vous n'interrogez pas beaucoup. Puisque l'idéaliste n'interroge plus. Le doux sommeil. On plane. Tandis que quand on est très éveillé, on interroge. Quelqu'un qui interroge, eh bien, il avance. Et l'interrogation magistrale, qu'est-ce que c'est? Le TST, qu'est-ce que c'est? On veut savoir et on secoue. Secouer avant de s'en servir. On secoue pour découvrir par où on peut passer. Et par où on va découvrir une faille. Pour découvrir le principe. Qu'est-ce que c'est? En quoi? D'où? En vue de quoi? Les grandes interrogations. Les cinq grandes interrogations d'Aristote. Cherchez bien, il n'y en a pas d'autres. Il y a le comment. Et comment reste encore une grande interrogation? Le comment de la personne humaine, c'est la plus grande interrogation. Et ensuite, le comment de l'être premier. De la personne première. Donc l'induction qui est la voie d'invention, de découverte. La perspicacité de l'intelligence, elle interroge. Parce qu'elle veut pénétrer, elle veut aller plus loin. Il faut découvrir ça, parce que dans le monde moderne, il n'y a plus beaucoup d'induction. Puis ensuite la démonstration. Ça, c'est beaucoup plus connu. C'est un raisonnement parfait comme raisonnement. C'est la preuve. La démonstration en matière nécessaire aboutit à une conclusion scientifique. La démonstration en matière opinable aboutit à une opinion. Sans doute cela. Il y a beaucoup de chances que ce soit cela. Alors je pars de prémisse pour conclure et découvrir les propriétés. Ensuite, il y a un raisonnement très particulier qu'on appelle le raisonnement a posteriori. La démonstration a posteriori, qui est quelque chose de très complexe. C'est pas du tout un raisonnement simple. Et tout raisonnement simple, vous voyez, c'est la montée et la descente. C'est tout à fait normal. Donc, vous avez induction, déduction, analyse, synthèse. C'est pas une vraie synthèse, mais encore, c'est ça. Puisque vous étendez le chemin. Troisièmement, le troisième, très difficile à présenter, il y a quelque chose de semblable à l'induction. Je pars de l'expérience, des constatations. Toutes les réalités que je vois sont mues. Ceci est mu, ceci est mu. C'est un fait. Je pars de l'expérience, un fait. Je me sers des principes. Donc là, quelque chose de semblable à la déduction. Mais j'illumine l'expérience par le principe. Et en éclairant l'expérience par le principe, je conclue. Il y a une conclusion. Qui n'est pas la découverte d'une propriété, qui est la découverte d'une cause. D'une cause existante. Donc d'une réalité première. Qui est une source. Mais c'est le sourcier là. Je découvre les sources. Les sources existantes. Donc oui, entre les deux. Ça existe un mixte. Un raisonnement très curieux. Alors, qu'en faites-vous? Et démonstration a posteriori. Donc, ce qu'on appelle la démonstration. A posteriori. Donc, ici, je ne demande pas le point de vue logique, j'essaie de comprendre que de fait, il y a ce genre de démonstration. Je reviens à la réalité. Cette réalité par un principe. Et de là, je recherche la source. Je découvre la source. Voyez, la découverte de l'intellect agent se fait par une démonstration a posteriori. Je découvre une source, l'intellect agent. C'est pour bien vous montrer que ce n'est pas seulement à l'égard de l'être premier, l'intellect agent est source. Donc c'est une réalité première. Est-ce que, à l'égard de toutes les facultés, de toutes mes puissances, est-ce que c'est une démonstration un peu sérieuse? Ce serait intéressant, ça. Vous voyez, on va essayer de comprendre. Puisque je suis en philosophie du vivant. Bon, je constate par expérience que j'ai la vision. Je vois. Je me pose la question, voyez, il y a une démonstration a posteriori quand on se pose la question, où est la source de ce que je constate? La source de cette vision. Il y a deux choses qui sont très proches de l'induction. L'expérience et puis l'interrogation. C'est à cause de l'interrogation que j'avance en démonstration a posteriori. Je pose la question d'où vient la source. Étant donné que je vois que la vision est un acte original, qu'il y a quelque chose d'unique. D'où ça vient? Je me pose la question, d'où ça vient? Alors vous allez me dire, alors c'est une induction. Vous découvrez un principe propre, attention. Ici on découvre, on fait une analyse. Ici on ne fait pas une analyse. On interroge pour découvrir d'où vient cette vision. En disant, tout effet limité existant a nécessairement quelque chose qui est antérieur, une source. Vous voyez, je m'éclaire d'un principe de finalité ou d'efficience. Toute opération a un agent. Alors quel est l'agent de la vision? Et je découvre, démonstration, je découvre une source, une puissance vitale. La puissance vitale est bien un principe, mais ce n'est pas le principe dans l'ordre d'analyse. C'est un principe existant. Vous voyez, c'est pour ça que la démonstration a posteriori est constante, je crois. Vraiment que, en philosophie du vivant, lorsque de fait, j'essaie de découvrir une faculté, ce qu'on appelle une dynamis, une puissance, c'est vraiment une démonstration postérieure. Je parle de l'expérience, une opération vitale. J'interroge et je découvre. Et donc c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense, la démonstration postérieure. Alors on dira, on part des effets pour découvrir la source. J'aime pas beaucoup ça, parce que quand on dit des effets, c'est pour qu'on a déjà découvert que c'est un effet. Je constate une réalité existante, limitée. Je vois. croyance originale. Je dis d'où ça vient. D'où ça vient. Ça vient de moi, puisque c'est moi qui vois. Et c'est existentiel. D'où ça vient. Ça vient d'une source. Oui, c'est le sourcier, la démonstration postérieure. Et c'est une démonstration complexe, imparfaite, comparativement aux deux précédents. Là où dépasse l'exister. On dépasse l'exister pour saisir un principe propre. Et on est en face d'une analyse qui va analyser la réalité en voyant ces éléments, en voyant ces principes. Et de l'autre côté, je reste toujours au niveau existentiel. Donc au niveau du pose. Je découvre une réalité existant antérieurement. Oui, c'est assez proche d'une loi. C'est assez proche d'une loi. C'est pas la loi. C'est assez proche. Je vois que telle réalité présuppose une autre. Parce qu'elle est propre de la loi. Si B existe, A existe. Il y en a la nécessité. Si la vision existe, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose d'antérieur à la vision. Parce que la vision est un fruit, n'est pas quelque chose de premier. Et donc je cherche l'antérieur, ce qui est antérieur. Oui, donc c'est assez proche de la loi. Mais ce n'est pas la loi. Pourquoi ce n'est pas la loi? Parce que ce que je découvre est cause propre. Et la différence, c'est justement, c'est que l'interrogation n'est pas la même que pour la loi. Il y a une similitude. Donc la démonstration a posteriori est complexe et elle est proche de la loi. Alors, ensuite, il y a le raisonnement réductif, qui, lui, part de mon expérience vécue pour essayer de trouver l'élément. Mais là encore, c'est très proche d'un raisonnement scientifique. Je vais réduire le complexe au simple. Réduction du à sa partie élémentaire. Donc, c'est l'élément que je cherche. L'élément est autre chose que le principe, autre chose que la cause existante. Vous voyez, il y aurait peut-être à préciser, c'est qu'ici, c'est les principes propres. Ici, c'est la cause. C'est la source, c'est la cause. La cause existe. Le principe peut être uniquement dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est pour ça que le principe implique le point de vue de l'analyse. Oui, et très facilement on confond les deux. Quand je découvre la substance, je découvre la substance d'abord et en premier lieu comme principe. Je la découvre ensuite comme cause. Je la découvre d'abord comme principe. Alors parce qu'elle est reliée à une expérience qui implique le champ d'existence, ce principe est cause. Alors, est-ce que pour découvrir la substance comme cause, faut-il une démonstration a posteriori? Vous voyez, ceci est, je vous ai dit, c'est deux opérations très pures, très élémentaires. Élémentaires dans le sens, elles sont complexes, mais elles sont élémentaires dans le sens du raisonnement. Tandis que celle-là est complexe. concentration posteriori. Ici, au niveau inductif. Alors évidemment, c'est très proche. C'est très très proche. Mais je crois qu'on peut le distinguer formellement. Et on aurait peut-être avantage, ça aiderait à mieux comprendre la saisie de la substance. Principe, cause, élément.
Moderne.
posteriori, ni réduction. C'est un certain mélange. C'est un certain mélange. Alors il faudrait voir si dans les diverses sciences qui aboutissent à des lois différentes, la synthèse, ce serait intéressant point de vue critique de la science, la synthèse de ces trois est différente. L'élément dominant ou l'élément dominant. Parce que dans toute synthèse, ben forcément, les éléments sont mis en harmonie différente. Si, voyez, là c'est un peu de critique à ce que nous faisons, mais la philosophie du vivant demanderait de constater ça. Réfléchissez si, pour la question de la biologie, la question de la physique, mathématiques. Les mathématiques, c'est sûrement la science la plus pure. Alors, est-ce que de fait, on retrouve ce mixte dans trois façons différentes? Posez-vous la question. Je crois qu'au plan vitalité de l'intelligence, je trouve ça. Je vois ces aspects-là. Comme jamais étudié sous cet aspect-là, je vous le livre en peinture. N'est-ce pas ? Ce sont des os qui sont excellents. Et qui sont intéressants du reste. Parce que c'est vrai, c'est très actuel ces choses-là, au point de vue de notre raisonnement, oui.
De faire des concentrations au sein du jugement des la vision de sagesse.
Oui. Alors, le jugement de sagesse. Oui, vous avez raison de le citer. Le chemin de sagesse, je ne le traite pas en philosophie du vivant, puisque je n'ai pas encore. Mais évidemment, je peux constater que ça existe. Présupposant la découverte de Dieu, il y a un raisonnement nouveau qui apparaît. Mais ça présuppose l'existence, la découverte de l'existence de Dieu. C'est pour ça que je ne le donnais pas. Selon un ordre générique dans lequel nous nous plaçons, je le mets pas en philosophie du vivant.
Mais on voit une similitude avec la démonstration a posteriori.
C'est assez proche, oui, c'est assez proche, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans le chemin de sagesse, tout est vu à travers la création. L'acte créateur de Dieu. Donc il y a quelque chose de nouveau. C'est la causalité première qui va éclairer ses effets. De sorte que c'est plutôt une application qu'un vrai raisonnement. C'est pour ça que dit jugement de sagesse. C'est le fruit d'une contemplation. Alors, est-ce que c'est encore un raisonnement? Je le mettrais plutôt, voyez, dans les espèces différentes de jugement. Parce que ce n'est pas un véritable raisonnement. J'éclaire la réalité humaine, l'homme, à la lumière du Créateur, de l'acte créateur. Et je dis dans la lumière de l'acte créateur, l'homme, dans sa complexité, apparaît tel, 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 tel. Oui. Mais vous avez raison de poser, mais je crois qu'on ne doit pas le mettre dans les raisonnements. Oui.
Et là, lorsqu'on passe, comme en métaphysique, on passe de la substance à la subsistance, ou chaque fois qu'on passe d'un principe au
autre. Oui.
Est-ce que.
Démonstration de sérieux. Nécessairement. Ça ne peut pas être autrement.
Donc, si la substance est saisie comme principe et cause.
Principe et cause.
Et
exactement, c'est la subsistance, puisque comme cause, elle est source-être. Et pour être source-être, elle subsiste. C'est pour ça, oui. Bon.
Est-ce que ça peut être de rapprocher principe de substance, cause de A et élément de B?
Bon, ça va, j'écoute.
Est-ce que ça est-il très possible de rapprocher principe et substance, idéal et élément des uns?
Principe d'existence, vous prenez qui et principe d'existence? Il n'y a pas de principe d'existence, sauf Dieu. Oui, c'est pour ça que je dis que le principe est principe d'intelligibilité. Et la cause est cause d'existence. Où te veux dire? La cause, pas le principe.
Mais dans la recherche de la substance, de l'acte et de l'un.
Oui, oui. Ah. Je crois que dans la recherche de la substance, de la cause, bon, il y a une induction, puisqu'il y a saisi un principe propre. Puis, je saisis ce principe comme cause d'être. Et là, je fais une démonstration a posteriori très rapide. Et habituellement, on passe du principe en disant ce principe est cause. Mais en disant ce principe est cause, c'est une démonstration a posteriori. Oui. C'est ça que je voulais expliciter tout à l'heure. Hein. Et je le fais aussi bien pour la substance que pour l'acte. Parce que l'acte est aussi cause. Mais cause finale. Son principe est cause. Oui. C'est les deux colonnes. Tandis que l'un est propriété. Donc c'est une conclusion. Il n'y a que peu d'induction. Il n'y a aucune induction pour l'un. C'est pour ça que c'est beaucoup facile à saisir. Alors je saisis l'un d'une façon démonstrative. Je le décris l'un et je décris le multiple. Tandis que la substance et l'acte, je les saisis comme des principes et comme des causes. Mais ça précise, ça, c'est ça qui est intéressant, du reste. On voit qu'on doit tout le temps aller plus loin. Parce que tout se tient. C'est ça qui est merveilleux en philosophie. Et dès que vous précisez quelque chose dans un domaine, immédiatement ça éclaire l'autre. C'est ça l'analogie. Mais ça s'éclaire mutuellement. Bon, voilà, au point de vue philosophie du vivant, je vois la complexité de ma vie intellectuelle. Et cette complexité provient du fait même qu'il y a abstraction. Parce qu'il y a abstraction, je peux séparer, ou distinguer plus exactement, l'essai de la détermination quantitative. Principe et cause. Si je peux distinguer principe et cause, je vois que, en fonction de l'abstraction, et donc du conditionnement de ma vie intellectuelle, il y a une opération propre à saisir un principe, une opération propre à saisir une cause. Et puis ensuite, je vois le point de vue de la réduction, qui est le point de vue de la conscience que j'ai de la complexité de ma vie intellectuelle. Et je ne peux pas me contenter de cette complexité. Je cherche ce qu'il y a d'élémentaire. Alors vous retrouvez là Foucault, méthode réductive. Toute la pensée moderne est beaucoup plus à la notion réductive. Parce qu'elle est critique. Donc c'est normal, c'est l'aspect réduction qui l'emporte dans toute la philologie. Donc Diderot, méthode réductive. Après, l'intention, l'intelligence, la volonté et le cœur et le langage forcé à continuer Descartes. Dans le langage courant, vous parlez d'un homme de cœur et d'un homme volontaire. Oh, celui-là, il a de la volonté. Tout ce qu'on lui confie, ça se fait. Celui-là, il a de très bon cœur, mais vraiment l'efficacité. Hein. Pouh là 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 là. Je ne sais pas si en anglais vous auriez exactement la même chose. Mais il y a des chances que Descartes a influencé toute l'Europe. Et alors, si c'est l'Europe, c'est la volonté. La volonté est le principe d'efficacité. Et le cœur, principe d'affectivité. Et le cœur, affectivité sensible. Parce que notre cœur est sensible. Tandis que la volonté, elle est forte. Elle est efficace, elle veut être efficace, elle est rude. Des êtres volontaires sont implacables. Mais l'efficacité est dans une révolution à Pékin. Pas de sentiment, on écrase. C'est inhumain Descartes, sous ce point de vue-là. Parce que ça conduit à une efficacité qui est aveugle. Et l'intelligence, c'est les citoyens.